Et maintenant, sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence.
Bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous rediffusons un échange enregistré à Biocibel 2022 entre un bénévole de la CRIRAD, commission de recherche indépendante sur la radioactivité, et les spectateurs suite à la projection du film documentaire « Invisible retombée », dans lequel des scientifiques de la CRIRAD enregistrent le taux de radiation à proximité des habitations et lieux de vie proches de la ville de Fukushima. Bonne écoute! Les autorités demandent expressément d'éviter de faire paniquer les gens. Mais que pouvez-vous bien dire à des personnes qui sont en train d'être exposées? Les gens qui pouvaient partir sont déjà partis.
On voit que le débit de dose dans la voiture est de 10 microsieverts par heure. Ça veut dire qu'à chaque heure qui passe, on prend déjà une dose qui n'est pas négligeable.
Vivre dans les territoires contaminés, c'est être soumis en permanence aux radiations émises par les substances radioactives invisibles qui se sont déposées sur toutes les surfaces exposées à l'air contaminé.
Et là, j'ai presque 400 coups par seconde.
Malgré tous ses efforts, cette famille subissait encore, en vivant là, une dose de radiation 2 à 6 fois supérieure à la dose maximale annuelle admissible.
Et les enfants, qui sont les plus radiosensibles, n'ont pas été protégés.
On ne peut pas se fier aux autorités, ni pour apprécier la réalité des risques, ni pour assurer la protection des populations face à la contamination durable de vastes territoires. C'est maintenant qu'il faut s'informer et agir. Quand l'accident nucléaire se produit, il est déjà trop tard.
Voilà, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Alors la mission de la CRIRAD, c'est d'informer, hein, c'est pas de divertir, donc l'information des fois c'est pas très gai. Si ça vous inspire des commentaires ou des questions, allez-y, j'essaierai d'y répondre.
Vous qui êtes allé enquêter, est-ce que vous vous êtes protégé contre ces radiations?
Bon alors, déjà, on va être clair. Moi, je suis juste un bénévole de la CRIRAD. J'habite dans la région, c'est pour ça que je tiens le stand à Biocibel. Les gens que vous avez vus à l'écran, c'est des salariés, c'est un ingénieur et un technicien. Et vous avez vu qu'ils ne se protègent pas. Alors, la radioactivité, en fait, quand on est exposé, on ne meurt pas de suite. Comme on l'a dit dans le film, on ne la voit pas. Le risque, c'est les doses cumulées sur la durée. Quelqu'un comme ça qui passe quelques jours au Japon, forcément, le risque de cancer augmente. Hein, ça a été assez bien expliqué. Un millisievert par an, c'est 17 cas de cancer supplémentaire pour 100 000 habitants. Mais il augmente très faiblement. Quelqu'un qui vit en permanence dans ces endroits, comme on l'a dit, si c'est 20 millisieverts, et ça peut être plus, hein, 20 millisieverts, c'est la limite maximale officielle, mais ça peut être plus, sa probabilité d'avoir un cancer augmente dans les mêmes proportions. Ça ne veut pas dire qu'il aura un cancer, peut-être qu'il va mourir d'autres choses avant, un accident de la route, une intoxication alimentaire. C'est juste de la statistique. Hein, et tout le monde, deux personnes exposées à la même dose, ne vont pas avoir les mêmes conséquences. Il y en a un qui va avoir un cancer au bout d'un an, l'autre au bout de 5, au bout de 10. Il n'y a pas de règle absolue. C'est vraiment de la statistique. Donc non, ils ne se sont pas protégés, comme vous l'avez vu à l'écran, mais c'était un séjour assez court quand même. Ils n'avaient pas envie de traîner, comme il l'a dit à un moment.
Oui, moi je vais vous poser une question qui n'est pas reliée au nucléaire proprement dit, à sa dangerosité, mais c'est une question que je me pose parce qu'on n'en parle jamais. Est-ce que vous savez la quantité de terre qu'il faut extraire pour trouver le carburant pour faire fonctionner les centrales nucléaires en France?
Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Hein. Encore une fois, je suis juste un bénévole, j'essaie de me tenir au courant. Ce chiffre est sûrement disponible quelque part sur Internet.
J'ai beaucoup cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ah. Moi, j'en ai un parce que j'écoutais une ingénieure des mines qui intervenait sur une radio libre, qui donnait des chiffres. Alors, d'après ce qu'elle a dit, moi, j'en ai tiré la conclusion suivante, que c'était 10 hectares sur 45 mètres de haut, sans le foisonnement qu'il fallait retrouver, enfin, qu'il fallait rebouiller pour trouver les 8000 tonnes d'uranium qu'il nous faut chaque année.
Si c'est une ingénieure, c'est peut-être vrai.
C'est moi qui fais le calcul d'après les chiffres qu'elle donnait.
Voilà. D'accord. De toute façon, comme toutes les extractions minières, hein, quand on creuse, on a des filons plus ou moins riches. Et pour extraire quelques kilos de la matière qu'on recherche, que ce soit de l'or, du fer, du cobalt ou de l'uranium, ça génère toujours des volumes énormes de déchets, enfin de déchets de minerais non exploitables parce que pas assez riches. Et c'est le cas en particulier pour l'uranium. On a le problème, ça crée d'autres problèmes, justement, en particulier en France, où on a exploité des mines d'uranium jusque dans les années 2000. Alors, si on a arrêté de les exploiter, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'uranium, c'est parce que les normes environnementales sont devenues un peu trop contraignantes et ça devenait trop cher de les exploiter en France. Donc, on est allé l'exploiter au Niger où les gens sont moins regardants, ou au Kazakhstan. Toujours est-il que ces anciennes mines d'uranium en France, il y a des millions de mètres cubes de ce qu'on appelle des stériles miniers. C'est un terme technique, hein. Stérile, ça reflète pas la réalité. C'est-à-dire de la roche qui est trop pauvre en uranium pour être exploitée. La partie la plus riche, on l'a récupérée pour l'exploiter. Donc cette partie trop pauvre, on l'a entreposée à proximité des mines en général. Mais il y a une certaine quantité qui est utilisée comme remblai pour des routes, des parkings, voire des cours d'école. Et ça, il n'y a eu aucune traçabilité. Hein. Ce qu'on a pu identifier, c'est suite à des alertes d'associations locales qui ont demandé à la CRIRAD de venir faire des contrôles, puisque la CRIRAD a la compétence et l'équipement qu'il faut. Et à chaque fois, on a réussi à démontrer cette contamination et à contraindre l'exploitant, donc Orano, ex-Areva, ex-Cogedim, enfin, ça change de nom tous les 10 ans pour essayer de semer les poursuivants, donc à contraindre l'exploitant de remettre en état les terrains concernés. Remettre en état, comme c'est dit ici, il faut décaper la couche contaminée, ce qui génère des nouveaux volumes de déchets. C'est des déchets nucléaires. C'est pas aussi radioactif qu'un combustible usagé, mais c'est des déchets nucléaires qu'on peut pas laisser dans la nature, qu'il faut entreposer et surveiller. Voilà. Donc, j'ai pas répondu à votre question, mais j'ai un peu brodé. Nulle part, ce genre de déchets, les stériles miniers, nulle part, ils sont enterrés. Hein. Ils sont toujours en surface. Dans certains cas, l'opérateur a cru bon de les mettre dans des lacs, parce que la couche, l'eau freine très bien les radiations gamma, pardon. Après, ça pose d'autres problèmes parce que ça trempe dans l'eau s'infiltre, etc. Il n'y a pas de solution miracle de toute façon avec les déchets nucléaires d'une façon générale. Il n'y a aucune solution idéale, ni les enterrer, ni les laisser en surface, ni les mettre dans l'eau, ni les envoyer dans l'espace comme certains en rêvent. Il n'y a pas de solution. Il faut juste arrêter d'en produire, quoi.
Que si les parents savaient que leurs enfants sont dans des cours d'école où il y a un risque d'avoir ces terres contaminées, ils auraient peut-être un autre regard sur le nucléaire qu'ils n'ont aujourd'hui. Quoi.
Alors, pour le cas que je vous ai cité, dont j'ai oublié le nom de la commune, les parents le savent du coup. Ils l'ont su après coup. Et ça a été remis en état. Donc, ils ont pu reprendre confiance dans l'école qui accueillait leurs enfants. Et ces remises en état, c'est des coûts énormes aussi. Hein. Je ne vais pas vous citer de chiffres, c'est tellement astronomique que c'est des chiffres que je n'arrive pas à retenir. Quoi.
Moi, je vais vous poser une question moi-même. Quand Tchernobyl s'est produit, nos autorités françaises ont dit « ça ne peut pas arriver chez nous, nous on maîtrise la technologie, etc. » quand Fukushima est arrivé, les autorités françaises ont dit « Oui, mais nous, nos centrales, il risque pas d'y avoir de tsunami. » Donc voilà, à chaque fois, il y a toujours un bon prétexte pour rassurer les populations. Quelles sont les causes majeures les plus probables qu'un accident arrive en France ? Parce qu'il y a des risques d'accident, il s'en est produit à plusieurs reprises. Et voilà quoi, entre, je pense, le tremblement de terre ou bien la centrale de Blaye en bord de mer, enfin, quels sont les risques ? Ou tout simplement la vieillesse ?
Oui, alors il y a l'usure. Bon, nos ingénieurs disent qu'ils surveillent bien tout, que tout est sous contrôle. Après, effectivement, un tsunami de 15 mètres de haut en France, c'est assez peu probable. Ce n'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Mais il faut savoir qu'à Fukushima, en fait, la centrale avait déjà été endommagée avant l'arrivée du tsunami, par le tremblement de terre. Alors, on ne sait pas s'ils auraient pu garder le contrôle juste avec ces dommages-là, puisqu'après est arrivé le tsunami qui a tout remis à zéro. En France, ce qui peut arriver... Alors, tous les ans, il y a des incidents, on appelle ça des incidents parce que c'est pas très grave, qui sont notés de 0 à 1, voire 2 sur l'échelle de l'autorité de sûreté nucléaire, qui en compte 7. Le niveau 7, c'est Tchernobyl ou Fukushima, hein, c'est quand on perd totalement le contrôle et qu'il y a des rejets massifs dans l'environnement. En France, alors, ça n'arrivera pas, bien sûr. Pardon, c'est pas drôle, mais je peux pas m'empêcher. Ce qui peut arriver, c'est une cumulation de petits incidents, les uns derrière les autres, sur lesquels on n'a pas repris le contrôle à temps, avant que l'incident suivant survienne. Genre une perte d'alimentation en électricité de la centrale, parce que ça peut paraître paradoxal, mais pour que la centrale puisse continuer à tourner en sécurité, il faut qu'elle reçoive du courant du réseau extérieur. L'énergie qu'elle produit ne lui permet pas de faire tourner ses propres pompes de refroidissement. Donc, en général, il y a toujours deux lignes haute tension, au moins deux lignes haute tension qui l'alimentent. Si elle perd cette alimentation électrique, c'est prévu. Il y a des groupes électrogènes qui permettent de prendre le relais et de fournir l'électricité pour faire tourner les pompes qui permettront de refroidir les cœurs pour pas qu'ils entrent en fusion. Et en général, il y a au moins 4 générateurs sur le site. Alors, il y a quelques années, EDF s'était aperçu que les supports de ces générateurs n'auraient pas résisté à un séisme d'amplitude moyenne, comme ça peut arriver dans les régions Rhône-Alpes, par exemple, ou certaines régions à forte sismicité selon les normes françaises, c'est-à-dire relativement faible par rapport à ce qui peut se passer au Japon. Mais ça montre que s'il y avait eu un incident un peu plus grave avant que EDF détecte ce problème, les groupes générateurs, quand ils auraient démarré, seraient tombés de leur support et n'auraient plus pu alimenter en électricité les pompes. Et donc, plus de refroidissement, c'est Fukushima, c'est Tchernobyl. Donc voilà, c'est assez peu probable qu'on se prenne un tsunami ou qu'un ingénieur fou comme un Tchernobyl fasse une expérience pour voir ce que ça donne. Mais une accumulation de petits problèmes rapprochés les uns des autres, ça pourrait conduire à un accident grave, disons. Mais ça n'arrivera pas, bien sûr, hein, on est d'accord.
On espère tous que ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais bon.
Est-ce qu'il existe des pays qui, en toute conscience des risques, n'utilisent pas et promettent de ne pas utiliser l'énergie nucléaire ?
Alors oui, bon, y a l'exemple le plus connu, c'est nos voisins allemands, hein, qui sont... Ce n'est pas le meilleur exemple. Hein, c'est assez contestable. Parce que si c'est pour consommer toujours autant d'électricité et de la produire avec des énergies fossiles, c'est peut-être pas... Là, on s'écarte un peu du cœur des missions de la CRIRAD. Nous, c'est information sur la radioactivité. Mais bon. Et l'autre exemple, on vient de le voir à l'écran, c'est le Japon.
Vous êtes sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2 FM, et vous écoutez l'échange enregistré à Biocibel 2022 entre un bénévole de la CRIRAD et le spectateur du film Invisible Retombé, suite à son visionnage.
Vous avez peut-être oublié ce qui s'est passé après Fukushima. immédiatement, toutes les centrales ont été arrêtées du jour au lendemain. Et le Japon, les dirigeants japonais ont un peu réfléchi quand même. Ils se sont dit, ouais, finalement, les normes de sécurité qu'on impose aux centrales nucléaires sont peut-être insuffisantes. On va les revoir, on va les durcir un peu. Et du coup, avec ces nouvelles normes, plus aucune centrale au Japon n'était en mesure de redémarrer. Bon, il y a des centrales un peu plus récentes qui ont pu être remises aux normes rapidement, aux nouvelles normes, hein, rapidement, et à des coûts raisonnables. Donc, dans les années qui ont suivi, il y a 6 réacteurs, je ne parle pas de centrales, hein, je parle de réacteurs, qui ont redémarré au Japon. Bon, entre-temps, il n'y en a que 2 qui ont dû être réarrêtés. Donc, actuellement, sous réserve, hein, parce que je n'ai pas les derniers chiffres, c'est des données que j'ai qui datent de quelques mois. Actuellement, il y a 4 réacteurs sur les 48 qu'il y avait avant Fukushima. Il y a 4 réacteurs qui tournent. Il y en a une vingtaine ou une trentaine qui redémarreront jamais parce que c'est impossible de les remettre aux normes. Et il y en a une dizaine, une quinzaine pour lesquelles les opérateurs font le forcing pour essayer de faire admettre qu'ils sont aux normes pour redémarrer. Ils ont fait des travaux ou pas, ils pinaillent sur des détails des textes réglementaires. Alors, autant avant Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire japonaise avait la réputation d'être assez souple. Depuis Fukushima, ils rigolent plus, quoi. La norme, c'est la norme, on va pas faire des dérogations. Voilà, donc le Japon est sorti du jour au lendemain du nucléaire, un peu forcé. Il a tendance à y revenir, c'est pas une sortie définitive. Et de toute façon, ils ont remplacé cette source d'énergie par d'autres. Hein. Ils n'ont pas diminué, symboliquement. Dans les 2 premières années, on a dit on coupe la moitié de l'éclairage public. Un réverbère sur 2, ça suffit. On arrête de climatiser les administrations. Je sais plus, il y avait quelques mesurettes comme ça. Mais globalement, les grands magasins sont toujours climatisés. Vous avez vu, les publicités géantes lumineuses sont toujours là. Ils n'ont pas la démarche de sortir du nucléaire ou de sortir de ce modèle de consommation.
Tous les pays attendent les catastrophes avant de faire autrement.
Même après une catastrophe, comme vous voyez, on prend conscience, on prend des mesures. Là, les Japonais qu'on a vus s'exprimer, c'est pas la majorité des citoyens. C'est un peu comme la CRIRAD en France, si vous voulez. Hein. Je vais faire un petit topo sur la CRIRAD. On a 5400 adhérents en France. Et c'est les adhérents qui assurent l'indépendance de la CRIRAD par leurs dons et leurs adhésions. Et au Japon, c'est un peu pareil. Là, on a vu intervenir que les gens qui sont vraiment militants, impliqués, convaincus. Mais l'immense majorité de la population... ce qu'elle veut, c'est toujours son confort, sa clim, ses pubs, ses voitures éventuellement électriques, etc.
Oui, nous venons d'arriver, je ne sais pas si on vous a posé la question, est-ce que c'est vraisemblable qu'actuellement, à partir du mois d'août, d'après ce que j'entends, les centrales nucléaires qui sont le long du Rhône peuvent être atteintes par la baisse de l'eau ou la chaleur de l'eau du fleuve ?
Alors, vraisemblable. Là, je suis pas hydrographe, etc. C'est vraisemblable. Par la baisse, je sais pas. Par la température, c'est vraisemblable parce que ça arrive régulièrement à Golfech. Quand la température de la Garonne l'été est trop élevée, on est obligé d'arrêter les 2 réacteurs de la centrale. Alors, c'est pas parce que l'eau est trop chaude et qu'elle ne permet plus de refroidir le réacteur. C'est parce qu'il y a une norme encore. C'est quand même emmerdant les normes. Hein, on peut plus rien faire de nos jours. Il y a une norme qui limite la température de rejet de l'eau en aval de la centrale. C'est pour protéger le milieu aquatique. Hein. Et donc, quand l'eau qui entre dans la centrale a une température trop élevée, on ne peut pas respecter cette norme de température de la sortie des réacteurs. C'est pour ça qu'on arrête principalement les réacteurs qui sont refroidis par des cours d'eau. Et dans le Rhône, je ne sais pas, ça a dû se produire déjà, je n'ai pas d'informations. Comme je suis de la région, je m'intéresse surtout à la centrale de Golfech. Mais c'est vraisemblable, ça s'est peut-être même déjà produit par le passé. Et de toute façon, non seulement c'est vraisemblable, mais avec le changement climatique, ça risque d'arriver de plus en plus fréquemment.
Ça pose la question de l'utilisation de la ressource en eau pour refroidir les centrales nucléaires au détriment d'autres usages de l'eau.
Alors, tant qu'on a cette norme qui limite la température de rejet, on peut être assez optimiste. Pour l'instant, le choix qui est fait, c'est d'arrêter le réacteur et non pas de dépasser la température limite. Mais une norme, c'est une norme. Ça peut se réécrire assez facilement. Un décret en Conseil des ministres, c'est-à-dire sans passer par la voie démocratique du Parlement. Et la norme est changée, on ajoute 2 degrés et voilà, tout, on peut continuer comme avant.
Je vais juste faire une petite séquence de souvenirs. Et puis j'aurai une autre petite question à poser. Il y a quand même eu 3 incidents majeurs en France. Il y a quand même une première centrale qui a explosé dans la banlieue parisienne, une centrale au graphite. On ne connaît pas le nombre de victimes, mais ça avait été le petit Tchernobyl. Tous les gens qui ont participé au déblayage, tout ça, on ne sait jamais ce qu'ils sont devenus. Il n'y a jamais eu de statistiques ni de, on va dire, de bilan de fait sur cette explosion. Il y a eu quand même, je crois que c'était la centrale de Tricastin, quand il y avait son réseau d'eau froide qui avait gelé. Ils avaient fait intervenir les commandos marins pour faire sauter les canaux à la dynamite parce qu'on était à 1 heure de la fusion nucléaire. Le directeur d'EDF était paru en direct au journal, blanc comme un linge, en disant qu'on avait échappé à, comment dire, une véritable catastrophe nucléaire en Europe. Et une autre que j'ai mieux connue, parce que bon, j'ai des collègues qui sont intervenus, c'est sur la centrale du Blayé en Gironde, qui a été submergée, où tous les systèmes de sécurité ont été paralysés, où la centrale était aussi au bord de la fusion, étant donné qu'il n'y avait plus rien pour la refroidir. Donc là, on a pu rétablir les systèmes. Ça a été un véritable miracle, on ne sait pas comment, mais c'est reparti. Et ça a été un peu miraculeux, comme hélas. Et à savoir qu'aujourd'hui, les conditions chez EDF et dans beaucoup de filières du nucléaire sont catastrophiques. C'est pour moi qu'ils le disent, c'est l'Agence de sécurité nucléaire, qui disent qu'on est à deux doigts d'une catastrophe. Mais bon, c'était pour revenir sur un peu aujourd'hui, ce qu'on peut constater aujourd'hui dans le parc nucléaire français, qui est dans un état désastreux. Mais je voulais une petite question concernant Fukushima. On parlait qu'aujourd'hui, le cœur est en train de fondre et donc et de descendre dans les sols et d'atteindre une nappe phréatique qui pourrait engendrer une explosion nucléaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où il en est, cette progression, et on n'en parle jamais, mais est-ce que cette explosion va avoir lieu ou est-ce que ça s'est arrêté ou qu'est-ce qui va arriver, quoi?
Oui, c'est une excellente question. Je n'aurais pas pensé à faire un point là-dessus. En fait, il n'y a pas un cœur qui est en train de fondre. À Fukushima, il y a 3 cœurs. Il y a 3 réacteurs accidentés. D'accord ? Déjà, mise au point. Ensuite, alors ils ne sont plus en train de fondre parce qu'ils sont quelque part dans les sous-sols sans qu'on sache exactement où. La radioactivité à proximité de ces cœurs en fusion, enfin, de ces cœurs fondus est tellement élevée que même les robots peuvent pas y accéder. Ils grillent au bout de quelques minutes. Il y a eu plusieurs essais pour envoyer des robots dans les bâtiments des réacteurs. Donc on ne sait pas où ils sont. Ils ne fondent plus parce qu'ils sont sous l'eau. Les sous-sols sont inondés. Et l'opérateur, TEPCO, injecte de l'eau en permanence pour refroidir, pour éviter justement le redémarrage des réactions en chaîne et donc le retour des rejets massifs dans l'atmosphère. Alors ce problème, bon, on peut dire c'est stabilisé. Ils espèrent toujours un jour pouvoir ressortir ces cœurs. Ça s'appelle des coriums, parce que c'est le cœur plus tous les matériaux qui sont autour qui ont fondu ensemble, qui forment une grosse masse plus ou moins difforme et très radioactive. Donc on ne sait pas exactement où ils sont dans les sous-sols. On les arrose en permanence, enfin, on renouvelle en permanence la masse d'eau dans laquelle ils baignent pour limiter l'échauffement. Et donc ça génère des volumes d'eau contaminés énormes. On ne sait plus quoi en faire. Parce que, alors vous direz, il suffit de repomper ce qu'on a injecté et puis le réinjecter une fois que c'est refroidi et ça tournerait en circuit fermé et il n'y aurait pas de volume supplémentaire. Le problème, c'est qu'il y a des nappes phréatiques, comme vous le soulignez, et que ces nappes phréatiques alimentent aussi les sous-sols. Ça fuit de la nappe vers le sous-sol. Et donc, quand on injecte 100 mètres cubes, eh ben, il faut en repomper 130 mètres cubes. Il y a 130 mètres cubes à ressortir, sinon ça déborde et ça part vers la mer. Ce qui est déjà arrivé ponctuellement et accidentellement. Mais le but, c'est quand même d'éviter ça. Donc, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est stocker ces volumes supplémentaires tout autour de la centrale. C'est magnifique, hein, la vue aérienne. Il y a plein de petits points blancs tout autour de la centrale. C'est les citernes de stockage. Et là, ils arrivent à la limite de ce qui est possible compte tenu de la surface disponible. Donc, ils ont obtenu du gouvernement l'autorisation de rejeter à la mer cette eau contaminée après une décontamination partielle. Alors, il y a tout un système de filtres qui permet de retenir le strontium, le césium, le rubidium, le plutonium. Je ne vais pas faire tous les noms des villages gaulois en ium. Le seul problème, c'est qu'il y a un élément qui est impossible à filtrer, c'est le tritium, qui est l'hydrogène radioactif. Et cet hydrogène radioactif, c'est le constituant de l'eau. L'eau H2O, là, on ne peut pas enlever l'eau de l'eau, quoi. C'est impossible. Donc, l'autorisation de rejet à la mer, ça va conduire à rejeter des quantités énormes de tritium, mesurées en becquerel, comme on le disait dans le film, à la mer. Et comme le niveau initial qui est présent dans les cuves est trop élevé, pour respecter la norme de rejet, on va le diluer. Mais au final, la quantité totale qui aura été rejetée, ça sera la même. Ça aura beau être dilué avant le rejet, la quantité finale, ça sera la même, quoi. C'est comme si, vous ne devez pas prendre plus d'un morceau de sucre par jour, au lieu de mettre un morceau de sucre dans un café, vous en mettez deux, mais dans 10 cafés. Donc, tous vos cafés sont moins sucrés, mais vous prenez une dose excessive de sucre par jour, quoi. Je ne sais pas si l'image est heureuse. Je ne veux pas vous empêcher de boire du café. Pareil avec le pastis, voilà. On ne vous dit pas plus d'une dose de pastis par jour. Vous en mettez deux, mais dilué dans 10 verres. Quoi.
Y a-t-il d'autres questions ou remarques ?
Moi, j'ai juste une question, puisque effectivement, les autorités, nos autorités, ne seraient pas vraiment capables de bien gérer une situation... une situation catastrophique dans une de nos centrales. Est-ce que vous avez des conseils à la population quoi faire dans le cas de, je sais pas, d'une explosion, enfin, est-ce qu'il y a des conseils à suivre?
Alors, j'ai le choix entre la solution de facilité, dire c'est pas l'objet de la CRIRAD. La CRIRAD, elle informe juste. Les conseils... Mais pour revenir sur ce que vous dites, de toute façon, une telle situation est ingérable, quelles que soient les mesures qui ont été prévues. Si c'est Golfech, par exemple, qu'il faut évacuer Bordeaux, vous imaginez, avec des bus. Alors si les gens partent en voiture personnelle, ça ne va pas marcher, bien sûr. Tout le monde va être bloqué sur l'autoroute. Mais le nombre de bus qu'il faudrait pour évacuer, c'est ingérable. Il n'y a pas de gestion. Les seules choses qu'on peut donner comme conseil à la population, et ce que devraient faire les préfectures, toutes les préfectures, hein, parce que ça ne concerne pas juste la préfecture du département où il y a un réacteur. On voit bien qu'en cas d'accident grave, ça arrose très large. Donc les conseils, c'est du bon sens. C'est s'enfermer chez soi, éviter d'aller à l'extérieur. Si on a des pastilles d'iode, les prendre. Idéalement, la pastille d'iode, elle est efficace si on la prend 24 heures avant l'exposition. Donc, mais faute de mieux, la prendre le plus tôt possible, parce qu'on aura déjà été exposé avant que ça ait été efficace, mais pour la suite, ça restera efficace. Donc, se calfeutrer, prendre de l'iode stable, si on en a, mais là, de toute façon, il n'y en a plus en pharmacie. C'est avec ce qui s'est passé en Ukraine, tout le monde s'est précipité sur l'iode stable, qui est en vente libre, hein. C'est comme le Doliprane ou l'aspirine, hein. On peut en acheter, théoriquement, on peut en acheter en pharmacie sans ordonnance. Encore faut-il que la pharmacie en ait en stock. Je n'ai pas de conseils. J'ai confiance, je sais que ça n'arrivera jamais, donc je ne m'en inquiète pas trop. Mais non, les conseils, c'est le bon sens. Déjà, ne pas éviter d'aller à l'extérieur. Bon, à un moment, il va bien falloir sortir, mais ne pas se précipiter à l'extérieur pour voir le joli nuage qui nous arrive dessus. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est au niveau collectif, c'est ingérable. Au niveau individuel, il y a quelques mesures de bon sens à suivre, c'est tout. Le tuba, ça veut dire qu'on aspire de l'air extérieur quand même. Donc il faut, si vous êtes dans un club de plongée, vous avez peut-être des bouteilles. Voilà.
Vous êtes sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2 FM, et vous écoutez l'échange enregistré à Biocibel 2022 entre un bénévole de la CRIRAD et les spectateurs du film Invisible Retombée suite à son visionnage.
On peut peut-être mettre quelques gouttes de teinture d'iode dans de l'eau et le boire, ça remplace la pastille.
Non, parce que moi j'ai rien contre les recettes naturelles, etc. Mais les doses en question sont sans comparaison. Où il faudrait vraiment absorber, je n'ai pas les chiffres en tête, mais plusieurs litres de teinture d'iode. Parce que le but, c'est quand même de saturer la thyroïde. C'est ça le fonctionnement de l'iode stable, sature la thyroïde et ça empêche l'iode radioactif, qui est un gaz rejeté en cas d'accident, de venir s'y fixer quand on l'aura respiré. La teinture d'iode, ça va être une rustine sur un pneu complètement crevé de partout. Quoi. Ça ne va pas suffire.
Supposons que par miracle, il n'y ait plus jamais d'accident nucléaire. Qu'en est-il des risques pour la santé humaine, du retraitement des déchets nucléaires? Est-ce que ça fait partie d'ailleurs de l'objet de la CRIRAD? Et quelles seraient les préconisations de la CRIRAD pour un mode de retraitement qui soit le moins risqué possible?
Oui, ça fait tout à fait partie de l'objet de la CRIRAD. Elle publie régulièrement des communiqués sur le projet CIGEO à Bure, par exemple, ou sur la situation à La Hague. Alors, quand on dit retraitement, c'est un peu trompeur comme terme, parce qu'une matière radioactive, il n'y a pas de traitement qui permette de la rendre inoffensive. C'est de la physique, c'est de la physique nucléaire, c'est pas très compliqué. Une matière radioactive, elle cessera d'être radioactive au bout d'un certain temps, selon ce que c'est. Si c'est de l'iode radioactif, par exemple, ça va être 10 jours. Si c'est du césium-137, ça va être 30 ans. Si c'est certains isotopes du plutonium, ça va être 6500 ans. Et la seule façon de rendre inoffensive une matière radioactive, c'est d'attendre qu'elle ait fini, que tous ses atomes aient fini de se désintégrer en d'autres atomes et en ayant émis donc des radiations alpha, bêta, gamma ou des neutrons. Il n'y a pas de solution de retraitement, ça n'existe pas. Il y a toujours une recherche, hein, ça fait 70 ans qu'on nous dit « ouais, la technique va trouver une solution ». Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. C'est vraiment de la physique nucléaire de base. Il n'y a aucune solution pour rendre inoffensif des déchets nucléaires. Alors, quand on parle de retraitement, c'est plutôt prendre les combustibles usagés, les mettre en colis dans des fûts bien étanches, dans l'espoir d'aller les enterrer plus tard. Ça, ce n'est pas du retraitement. C'est du stockage dans des souterrains très profonds. La solution, c'est assez contestable. Hein. On ne sait pas. Là, on parle de déchets très hautement radioactifs. Pour que la décroissance radioactive dont je vous parlais à l'instant ait lieu, il va falloir attendre minimum 100 000 ans, voire 200 000 ans, selon le niveau final de radiation acceptable qu'on considère. Dans 100 000 ans, est-ce qu'il restera des humains ? Peut l'espérer, mais les humains en question, est-ce qu'ils auront toujours la mémoire de ce qu'on a, enfoui à cet endroit? Pour l'instant, en France, tous les déchets hautement radioactifs, c'est-à-dire les combustibles usagés, sont stockés en surface, principalement à La Hague. On garde un œil, enfin, le personnel concerné garde un œil dessus. Mais c'est pas une solution non plus. Là, c'est un peu comme pour la gestion d'un accident. Il n'y a pas de solution. Je suis désolé. La solution immédiate qu'on devrait appliquer, c'est arrêter de produire des déchets, déjà. Et pour les déchets existants, désolé, on n'a pas de solution. Pas de solution concrète, pas de solution sans conséquences, quoi. Alors, c'est vrai que l'un des rares arguments qui pourrait être valable, c'est que à quantité d'énergie produite égale, ça émet très peu de CO2 par rapport aux énergies fossiles. Ça c'est vrai. Oui, je répète la question de la dame. Donc, Est-ce que c'est vrai que l'énergie nucléaire rejette moins de CO2? Oui, ça c'est clair. À quantité, je n'ai pas dit qu'elle ne rejetait pas du tout de CO2, elle en rejette beaucoup moins pour le même nombre de kilowattheures produits. Alors ensuite, est-ce que le CO2 est pire que les déchets hautement radioactifs dont la demi-vie dépasse des centaines de millions d'années? À mon avis, non. Enfin, moi, je refuse d'avoir arbitré entre le dérèglement climatique et l'accumulation de déchets radioactifs. J'arbitre pas, moi. Je dis les deux sont pourris. Il faut trouver autre chose.
Le dérèglement climatique, on le fabrique.
Oui, on le fabrique, oui.
On le fabrique pas avec le CO2.
Oh là, alors là, on est complètement sorti de l'objet de la CRIRAD et là-dessus, je peux pas me prononcer. C'est un domaine que je connais pas du tout, dans le meilleur des cas.
Excusez-moi.
Donc je vous propose d'inviter une autre association qui serait spécialiste avec un laboratoire agréé sur les chemtrails, par exemple. Et je suis sûr que Biocibel serait heureux de vous accueillir pour une conférence comme celle que je fais sur la radioactivité, que je répète.
Je vous invite à demander le micro avant de vous exprimer, puisque nos échanges sont enregistrés et seront diffusés sur Radio Albigès en podcast. Donc, merci.
Je voulais faire une remarque juste là. Le nucléaire, de toute façon, c'est un problème insortable parce que même les sites des centrales, s'ils arrêtent les centrales, le site, il est définitivement pollué. On ne peut rien y faire d'autre.
Tout à fait. Alors, quand on parle de déchets nucléaires, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, c'est les combustibles usagés. Hein, c'est ce qui ne peut plus donner d'énergie dans les réacteurs, mais qui reste très radioactif. Ça, c'est les déchets les plus radioactifs. C'est ceux qu'on veut enterrer à Bure. Mais il y a d'autres déchets, comme vous le faites très bien remarquer. C'est d'une part les réacteurs. Si un jour on trouve une solution pour les démanteler, comme on dit, c'est-à-dire démanteler, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'on va les découper en petits morceaux pour les stocker quelque part ou pour les diluer dans les biens de consommation avec d'autres métaux? Donc il y a ces installations nucléaires, mais il y a aussi tous les à côté, toutes les ferrailles qui ont servi au chantier, tout l'outillage qui a été contaminé lors des interventions dans les réacteurs, toutes les tenues de protection des ouvriers qui ont été contaminés aussi quand ils sont intervenus. Tout ça, c'est aussi des déchets nucléaires. Ça, il n'est pas question de l'enterrer de toute façon parce que c'est des volumes beaucoup trop importants. Donc ça, c'est pareil, c'est stocké en surface. On garde un œil dessus. Et puis on attend que ça décroisse naturellement avant de devenir inoffensif. Et là aussi, encore une fois, je suis désolé, hein, mais je suis l'homme qui ne vous apporte aucune solution là, sur cette question.
Moi, je voudrais revenir sur la question de l'impact du nucléaire sur le dérèglement climatique. Parce que je suis toujours sidéré par les gens, les soi-disant experts, qui s'expriment en mettant en avant les avantages de l'énergie nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie, notamment fossiles, etc., etc. Parce que, généralement, ils oublient un petit détail, c'est l'impact des activités humaines qui sont et qui seront engagées pendant des milliers d'années pour gérer les déchets nucléaires. Et c'est énorme, c'est tellement énorme que personne n'est capable de l'évaluer, de le calculer. Donc, on s'assoit allègrement là-dessus.
Oui, hein, encore une bonne remarque. J'aime bien ce public, il a plein de bonnes remarques. Alors, effectivement, quand on parle du bilan carbone de l'énergie nucléaire, c'est quand on prend en compte la construction des centrales, l'extraction de l'uranium, son transport, son traitement, etc., son utilisation dans les centrales, et après le retraitement, c'est-à-dire l'entreposage ailleurs. Mais l'impact du démantèlement des centrales, à ma connaissance, n'a pas été sérieusement chiffré. Donc ça plomberait certainement le bilan carbone et ça plomberait aussi certainement le coût de l'énergie nucléaire parce qu'on nous dit que c'est une énergie qui est très peu coûteuse. Hein, la France a l'une des électricités les moins chères au monde. On est super contents. Mais toujours est-il que le démantèlement n'a pas été sérieusement chiffré. EDF est contrainte de faire des provisions financières pour financer le démantèlement. Mais en fait, EDF ne sait pas démanteler une centrale. Elle l'a jamais fait de sa vie. Et aucun opérateur dans le monde. Il y a eu des petits réacteurs scientifiques qui ont été démantelés. Ça, c'est facile. Mais un gros réacteur de 900 mégawatts, par exemple, ou même un petit réacteur comme celui de Brennilis, qui est arrêté depuis 35 ans environ, et qui devait être la vitrine technologique d'EDF pour démontrer son savoir-faire en matière de démantèlement, ce réacteur n'est toujours pas démantelé. On a vidé le combustible, on a vidé les circuits de refroidissement, la cuve est toujours en place dans son bâtiment en béton, et on ne sait pas comment faire. Enfin, on ne sait pas, moi certainement pas, mais EDF ne sait pas comment procéder pour enlever cette verrue du paysage. Voilà, tout simplement. C'est ça le démantèlement. Hein. Le but, c'est d'enlever ces installations de l'endroit où elles se trouvent.
Oui, voilà, tout de suite, j'émettais quelques réserves sur l'émission de CO2. C'est vrai que le fonctionnement nucléaire n'émet pas de CO2. C'est un atome qui frappe d'autres atomes, ça dégage de l'énergie, ok. Mais pour que ça puisse se faire, il faut du carburant, l'uranium. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des millions de tonnes de terre qui sont rebouillées chaque année pour trouver l'uranium. Ça, c'est de l'émission de CO2, parce que c'est fait avec des engins qui émettent du CO2, des énergies fossiles. Il y a le retraitement, comme vous venez de dire. Il y a la construction de la centrale nucléaire qui elle-même génère des milliers de tonnes de béton. Pour ce béton, c'est de l'énergie fossile. Donc, c'est de l'émission de CO2. Les colis que vous parliez, c'est à peu près 1 mètre cube de béton pour mettre quoi dans le colis? Il y a 2 kilos à peu près de déchets ultimes, et c'est 1 mètre cube de béton. Pour les mettre à Bure, c'est 500 mètres sous terre avec des couloirs, des espèces de trous comme des meules de gruyère.
Des galeries,
voilà. Mais c'est pas des petits trous. On y va en camion hein, dedans. Ils y vont avec des engins. Les engins qui sont dédiés ne sortent pas. Mais c'est des grosseurs d'un camion, d'un aspire-morte qui circule là-dedans. Je sais pas si vous voyez un petit peu le trou qu'on fait en dessous terre. Et il y a ces galeries qu'on fait et on enfile les colis de béton. Si là il faut pas de CO2 pour creuser des trous comme ça, faire ces galeries et ainsi de suite, mais c'est énorme quoi. Et ça c'est jamais calculé dans la production de CO2, parce que pour finalement avoir 1 kilowatt d'énergie nucléaire, il faut que tout ça soit fait. Voilà. Et le démantèlement, comme vous parliez, on n'en parle pas non plus. Et le démantèlement, c'est pareil, c'est des machines qui vont des infrastructures qui vont utiliser de l'énergie fossile et donc ils vont émettre du CO2. Donc quand on dit le nucléaire ne produit pas de CO2, je suis désolé, mais il en produit un peu plus qu'une éolienne.
Hein. Oui, même parmi les plus malhonnêtes des promoteurs du nucléaire, il n'y en a aucun qui dise que ça ne produit pas de CO2. Ils disent que ça produit moins de CO2 pour la même quantité d'énergie produite. Oui, comme je disais tout à l'heure, dans les calculs, il a bien été pris en compte tout l'amont de la centrale nucléaire, de sa construction, la production du combustible et l'aval immédiat, c'est-à-dire la mise en colis, mais tout le reste n'est pas pris en compte.
N'oublions pas qu'il n'y a pas que le CO2 hein, qui ferait l'effet de serre. La vapeur d'eau, par exemple, parce que pour refroidir une centrale, il faut de l'eau et donc il y a de la vapeur d'eau qui se dégage. C'est un gaz à effet de serre très important. Il nous reste quelques minutes, on va prendre encore une ou deux questions maximum.
Une petite question terre à terre. Depuis 1973, nous payons une infime partie avec la facture EDF pour la décontamination des centrales nucléaires. Où est cet argent?
Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'obligation de provision financière qu'a EDF. Donc ça, normalement, alors j'ai pas eu l'occasion d'examiner les comptes d'EDF, mais comme c'est une entreprise publique, je suis sûr qu'on peut le trouver quelque part. Et donc, quelque part, ils ont une réserve. Ils ont des noisettes quoi, pour financer théoriquement le démantèlement plus tard. Attention, hein, c'est ce qui est prévu par la loi.
N'ont-ils pas payé les centrales nucléaires qu'ils ont faites en Amérique du Sud ou les centrales nucléaires qui sont fabriquées en Angleterre?
Ah non, là on parle d'EDF, entreprise française exploitant en France, qui aura l'obligation vis-à-vis de l'État français de démanteler. J'arrive pas avec ce terme parce que démanteler, ça veut pas dire grand chose. Enfin, qui aura l'obligation de remettre en état les terrains où elle avait ses centrales, quoi. Mais oui, il y a une partie effectivement de vos factures d'électricité qui sert à provisionner ces dépenses futures.
Oui, je voulais dire là, par exemple, la centrale de Brennilis, là, ils ont laissé que ils ont démoli tous les bâtiments annexes, ils ont laissé que le bâtiment où il y a la radioactivité, là, mais pour le finir de le détruire, pour rendre le site à la pelouse, si on veut, le problème va lui changer de place. Les déchets qu'il y a là, il faudra les mettre ailleurs. Quoi. On ne résout pas le problème, on ne fait que le changer de place. Et ce sera partout pareil.
Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a la remise en état du site, déjà, bon, on ne sait pas s'ils y arriveront un jour, mais ça va générer des déchets pour lesquels je n'ai pas de solution à vous proposer, et je pense que personne n'en a de raisonnable à vous proposer. Et Brennilis, c'était un petit réacteur de 300 MW. C'était le premier réacteur à fournir de l'électricité. C'était juste un démonstrateur qui restait en activité moins d'une dizaine d'années, si je me souviens bien. Donc, ce n'était pas la grosse centrale de 900 MW, enfin, le gros réacteur de 900 MW, comme on a à Golfech, par exemple.
Bien, je pense qu'on aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à poser. On n'a pas abordé, par exemple, la question de l'organisation du travail, la filialisation, les impacts possibles en termes de sécurité nucléaire sur la mise en concurrence. Voilà, bon...
Alors, je vous rassure, si vous êtes frustré parce qu'il y avait une question que vous teniez absolument à poser, je serai sur le stand de la CRIRAD, hein, au pôle énergie habitat. Je répondrai à vos questions dans la limite où j'ai les réponses. Donc, c'était le signal de fin.
Voilà, pour libérer la place pour la conférence suivante. Oui, il va falloir laisser la place.
Merci à tout le monde.
C'était l'enregistrement de la discussion qui a suivi la projection du film documentaire Invisible Retombée, produit par la CRIRAD, Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité. Un échange qui a eu lieu lors de la foire à la bio et aux alternatives Biocibel, édition 2022, organisée par l'association Nature et Progrès Tarn à Groyé. Retrouvez cette conférence et bien d'autres en podcast sur notre site internet www.radioabiges.com.